Bonjour Patrick Veil.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur, enfin directeur de recherche même au CNRS, et vous publiez avec Thomas Massé ce livre de lettres inédites de Georges Clemenceau, Lettres d'Amérique aux éditions Passé Composé. Je vais prendre quelques secondes tout de même pour présenter ce livre, parce que c'est la première fois qu'est publié dans son intégralité la centaine d'articles du jeune Georges Clemenceau quand il était journaliste aux États-Unis. Son séjour va durer près de 4 ans à partir de 1865. Il y aborde notamment le combat politique aux États-Unis sur les questions raciales de l'époque, et cela résonne évidemment avec l'Amérique de Donald Trump aujourd'hui. On verra aussi comment ce long séjour de Clemenceau aux États-Unis a pu influencer sa vision de la politique française sous la Troisième République. Et puis enfin, ce livre tombe à pic au surlendemain du discours d'Emmanuel Macron sur les valeurs de cette République que l'on célèbre pour ses 150 ans en ce moment. Alors on va raconter aussi, pour commencer, pas la petite histoire, mais en tout cas le contexte. Nous sommes donc en 1865, il y a un jeune médecin français de 24 ans qui débarque dans la baie de New York. Il s'appelle donc Georges Clemenceau.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'il débarque? Parce qu'il y a une femme.
Parce voilà. Qu'il y a un dépit amoureux.
Il a fait une femme.
Dépit amoureux, et puis il voulait, après l'assassinat de Lincoln, il avait manifesté devant l'ambassade des États-Unis avec des étudiants en solidarité avec le combat que Lincoln avait mené, et il décide d'aller voir la démocratie en action, alors que la France vit sous un empire autoritaire dictatorial. Il veut voir la République américaine, comment ça marche.
Et il parlait très bien anglais. Hein.
Il parlait très bien anglais.
Il a fait un séjour en Grande-Bretagne avant de venir.
Et il améliore son anglais à un point que lorsqu'en 1922, il revient aux États-Unis 53 ans après y avoir été, quand il prend la parole devant des salles bondées, il parle l'anglais avec l'accent de New York. Il écrit, j'ai retrouvé dans les archives des lettres de lui, qu'il écrit à 85 ans, il écrit bien mieux que moi l'anglais, bien mieux que n'importe quel français. Il parle un anglais parfait jusqu'à la fin de ses jours.
Et puis il va donc devenir correspondant pour le journal Le Temps, et il va donner donc sa vision française des États-Unis, le combat pour l'égalité raciale notamment. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que les articles de Clemenceau racontent de plus que ce que savent aujourd'hui les historiens sur cette période de reconstruction américaine?
Il signe pas d'ailleurs, il faut dire, il signe pas ses articles, ses lettres, et il n'est pas payé pour ça.
Il est payé à partir d'un certain moment.
Ouais, c'est ça.
Mais si vous voulez, comme c'était pas signé, au fond, personne ne savait que c'était de lui. Quand il s'engage, dès son retour, dans la mêlée de la commune, il est maire du 18e arrondissement, il a juste derrière lui les 5 années d'affrontement extraordinaire qu'il a. Il était à Washington, qui était un petit village, il pouvait interviewer le président ou les candidats à la présidentielle, le speaker de la chambre, le chef des radicaux qui va devenir son héros et son inspirateur dans son art oratoire. Il n'y a pas d'assemblée à l'époque sous l'Empire, il n'y a pas de débat parlementaire, enfin aussi libre que ce qu'il voit. Alors qu'est-ce qu'il fait, Clemenceau? Vous savez, on sait les liens qu'il y a entre la Révolution française et la Révolution américaine, les inspirations qu'il y a eu. On se demandait pourquoi il n'y avait pas eu de lien entre la reconstruction d'après la guerre civile américaine et notre propre reconstruction républicaine après la chute de l'Empire. Eh bien, c'est Clemenceau, dans ses lettres, dans chacune de ses lettres, qui montre cette liaison qui était restée jusqu'à aujourd'hui inconnue. Les valeurs de la République française, il les constitue aussi, et ces valeurs qu'il défend, elles sont là dans ses textes.
Si la France a soutenu la Révolution américaine, c'était aussi pour que la Grande-Bretagne ne prenne pas trop d'influence en Europe aussi. C'est
oui,
de la géopolitique déjà.
Vous savez, les combats pour les libertés sont toujours soutenus. Il y a très peu de gens qui combattent pour les libertés uniquement pour la liberté. Il y a des intérêts derrière, il y a des calculs, et à la fin, c'est comme ça que les gens qui combattent pour les libertés gagnent, c'est avec des alliances. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il se forge là-bas l'idée de l'égalité devant la loi comme principe fondamental. Abolition de l'esclavage, et combat toute sa vie contre la colonisation. Liberté absolue de parler, de la presse. Il combat, par exemple, le délit d'offense au président de la République qui va être créé par la Troisième République. Il veut une presse et une parole libres.
Ce sera l'un des succès de la Troisième République en France, cette liberté de la presse.
Oui, mais il veut aller jusqu'au bout de cette liberté. Laïcité fondée sur la liberté de conscience, qui veut dire aussi la liberté de pas croire, il croyait pas, et la liberté de croire. Et puis, le droit à l'instruction. Ça, c'est fondamental, il le dit, pour que les Noirs puissent être vraiment libres et citoyens, ils ont droit à l'instruction.
Et à l'inverse d'un Tocqueville qui, 30 ans plus tôt, publiait son essai sur la démocratie aux États-Unis, chez Clémenceau, il n'y a pas de compromis à avoir sur les questions raciales. C'est ce qui oppose Tocqueville et Clémenceau.
Oui, et puis Tocqueville donnait une image d'une démocratie apaisée, etc.
Mais il a quand même été influencé par Tocqueville au départ. Il est parti avec l'ouvrage de Tocqueville dans la poche.
Il est parti avec l'ouvrage de Tocqueville et puis il a découvert que ça ne marchait pas.
C'est ça.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a une préface de Bruce Akema qui titré « Clémenceau contre Tocqueville ». C'est une autre lecture de l'Amérique que les lecteurs pourront voir. Clémenceau s'oppose à Tocqueville dans sa lecture de l'Amérique. Et c'est une Amérique où il y a des affrontements et où le radicalisme, il forge. Vous voyez le terme « radical républicain ». Il y a un parti qui va s'appeler comme ça en France.
Et bien
c'est l'aile anti-esclavagiste du parti républicain dans lequel il se reconnaît
radical
totalement.
De la tête aux pieds, écrit-il, ennemi radical de tout homme qui a tenté d'assassiner ma patrie.
Voilà, patriote, parce que c'est ça aussi, toute sa vie, ensuite, on le voit à la fin de sa vie, et vous voyez ce qui est intéressant, sur les valeurs de la République. C'est Clémenceau, au moment de la... il commence à l'extrême gauche, dans la vie politique française. Il termine à droite. Et les valeurs de la République,
elles ne changent pas.
Et c'est ça, non mais c'est bien de l'entendre si vous voulez. Les valeurs de la République, elles rassemblent tous les Français, même s'ils passent de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche. Elles nous rassemblent toutes à condition de bien les choisir, bien sûr.
On parlait d'esprit et de radicalité, d'esprit radical. Sur le débat pour ou contre le vote des Noirs aux États-Unis en 1865, Clémenceau écrit des phrases donc justement assez radicales, hein, je la cite. « Il y a beaucoup de petits blancs dans les États du Sud qui ne sont pas plus capables d'exercer des droits électoraux que les Noirs les plus abrutis. » Clémenceau a le sens de la formule, hein, son style.
Il a son style déjà. Il a aussi l'aspiration, le combat pour la justice qui pour lui est fondamental. Il dit « C'est l'honneur de l'esprit humain que la revendication subsiste tant que la justice souffre, et il ne peut y avoir qu'une manière de supprimer les questions, c'est de les résoudre dans le sens de la justice. »
Aux États-Unis, Clémenceau va trouver son héros, hein, un certain Thaddeus Stevens, défenseur de l'égalité raciale. C'est le leader des radicaux à la Chambre des représentants. Pourquoi est-ce que ce Thaddeus Stevens va inspirer Clémenceau tout au long de sa vie, y compris quand il reviendra faire de la politique, enfin quand il ira faire de la politique en France?
Parce que il l'admire de s'être mobilisé tout entier sur une seule idée. L'abolition de l'esclavage. Et il admire... Alors il dit, on l'a beaucoup accusé d'étroitesse d'esprit, la vérité est qu'il s'était mis des œillères pour mieux voir.
La formule est jolie.
Vous voyez ? Et parce que c'était le sujet central. Et il l'avait combattu contre l'esclavage quand personne ne le faisait, et il avait eu la victoire finalement.
Mais...
Et aussi, il a admiré et s'est inspiré de son art oratoire extraordinaire à la Chambre des représentants. Il écrit, la meilleure partie de son talent, c'est qu'il ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à prouver et s'occupait avant tout d'être clair et de convaincre. Et en fait, c'est probablement son inspirateur, mais qui en France le sait ? Puisque ces articles étaient anonymes et qu'ensuite ils n'ont pas été publiés.
Il était aussi très attaché à l'accès à la citoyenneté, donc qui est une source de paix durable dans un état de droit. Ça a quelques résonances actuelles, ça.
Ah non, mais il était, si vous voulez, son combat anticolonialiste, il va le mener jusqu'à la mort. Pendant la guerre de 14, vous savez qu'il naît président du Conseil en 1917. En 1915, il dépose une proposition de loi pour que les musulmans d'Algérie aient le droit de citoyenneté, même s'ils conservent le statut du Coran comme statut civil. Il était pour la citoyenneté. Il était pour l'indépendance de l'Algérie. Il la propose d'ailleurs à Wilson et à Lloyd George en 1919. Il leur dit, vous voulez vraiment la paix perpétuelle ? Vous la voulez vraiment ? Mais est-ce que vous êtes prêts à en payer le prix ? Et les autres disent, mais qu'est-ce que c'est le prix? Eh bien, le prix, c'est que nous déclarions la fin de nos empires. Êtes-vous prêts? Monsieur Lloyd George a laissé l'Inde. Monsieur Wilson a laissé les Philippines et Porto Rico et a arrêté d'embêter le Mexique et Cuba. Moi, je suis prêt à donner la liberté à l'Afrique du Nord. Tout de suite, êtes-vous prêts? Jusqu'au bout de sa vie, il sera anticoloniste. Alors, vous savez, on le présente le plus grand flic de France. Il a été 2 ans et demi ministre de l'Intérieur. Il a été toute sa vie anticolonialiste.
Comment est-ce que son séjour américain a influencé donc sa vision d'homme d'État de la Troisième République, dans l'affaire Dreyfus par exemple?
Eh bien, la justice, la liberté, la justice, le droit. Et puis sa façon de s'exprimer librement, vous dites, il a le sens de la formule, mais il aura toujours le sens de la formule. Et quand il revient aux États-Unis, en 22, il commence tous ses discours en disant, vous savez, j'ai failli devenir américain, je suis resté 4 ans et demi. Et si je l'avais été, j'aurais bénéficié du droit que vous avez de pouvoir vous exprimer librement sur tous les sujets de la Terre. Pour lui, le droit de pouvoir s'exprimer. Donc ça va rester dans tous ces combats politiques pour la liberté. Donc voilà, il y a même du vocabulaire qu'il apporte en France. La plateforme électorale des partis. Ça n'existait pas, d'ailleurs, les partis n'existaient pas tels qu'ils sont devenus après. Eh bien, ça vient des États-Unis. Il y a la plateforme de la Convention, c'est toujours le cas. Il importe ce terme dans le vocabulaire français.
Et pourtant, la séparation de l'Église et de l'État de la Troisième, et pourtant le rejet du communautarisme de la Troisième, c'est tout l'inverse des États-Unis, de ce qui se passe
alors,
aux États-Unis.
Alors, écoutez, je vais vous dire, en 1870, il écrit une lettre à une comme maire du 18e arrondissement, lettre à une institutrice du 18e arrondissement, où il écrit Madame, voilà, je la lis. Il est de notre devoir de respecter la liberté de conscience chez tous les citoyens et de laisser à chacun le soin de pratiquer sa religion comme il l'entend. 1870. Bon, il était pour une laïcité avec la séparation des églises et de l'État, mais il était pour le respect. La religion.
La laïcité, c'est aussi le respect des religions.
Mais évidemment, mais vous savez que, aujourd'hui, nous avons malheureusement des débats artificiels. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire librement, sans pression, sur la base de la liberté de conscience, et Clémenceau l'écrit extrêmement bien dès 1870.
Pas un homme de conviction, mais pas un homme rigide. C'est-à-dire qu'il disait de lui-même qu'il avait un pied en l'air et qu'il ignorait de quel côté le vent le ferait tourner. Je trouve ça assez formidable pour un homme politique.
Oui, mais c'est assez vrai, bien sûr, mais pas sur les principes.
Pas sur les principes,
oui. Et ben voilà, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont aucun principe et qui ne sont pas guidés par des principes. Lui, il avait ça parce que pour faire triompher les principes, il faut savoir
s'adapter
et changer les alliances, etc., avec l'objectif de les faire aboutir.
Et l'objectif aussi, d'une paix permanente. Alors ça, on peut se dire qu'il est quand même un peu idéaliste.
Voilà, alors il croit. Alors, il va rester, de ce point de vue-là, idéaliste, parce que l'égalité devant la loi... Il le dit d'ailleurs, il n'est pas socialiste. Il est radical, il n'est pas socialiste. Bon. Et il pense que par le droit, par l'éducation, l'attribution de l'égalité et de la liberté, eh bien tout ça va s'arranger. Bon, et là il est optimiste. Voilà.
Une république qu'il faut aujourd'hui protéger, a dit vendredi Emmanuel Macron. Une république toujours menacée par les obscurantismes, notamment les communautarismes. Y avait-il les mêmes obscurantismes durant la Troisième? Est-ce qu'elle était menacée, cette Troisième République, et pour les mêmes raisons?
D'abord, la Troisième République a été adoptée, non pas... le 4 septembre 1870, mais en 1875, à une voix de majorité. Et le régime de Vichy a mis un terme à la Troisième République qui était considérée à l'extrême droite comme une république illégitime. Donc si vous voulez, bien sûr que la Troisième République était beaucoup plus fragile que la Cinquième.
Elle était fragile politiquement parce qu'elle retombait régulièrement.
Attention, c'est très important parce que Clémenceau est républicain parce qu'il croit au régime où justement il n'y a plus de roi, où il n'y a plus d'empereur, où nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. Donc, je ne crois pas qu'il aurait beaucoup aimé la Ve République. Vous voyez, et son évolution.
Et encore moins la sixième.
Ah, je ne sais pas, mais la sixième n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus, je crois pas qu'il aurait aimé dans le discours. Oui, dans le discours de Monsieur Macron, il y avait à la fois l'hymne à la liberté, c'est parfait. Et puis après, il dit aimer nos paysages, notre culture, notre histoire, toujours, tout entier. Bon, non. Si on est libre, on peut ne pas aimer certains. On peut ne pas aimer l'esclavage, par exemple. On peut ne pas aimer la colonisation. Monsieur Macron lui-même n'a pas aimé l'exécution du roi Louis XVI. Il l'a dit, les Français n'ont pas aimé qu'on exécute le roi. C'était pas les Français, c'était lui. Bon, donc lui-même se contredit. On peut pas dire à la fois, il faut la liberté, c'est fondamental dans la République, et puis dire, il faut tout aimer.
En même temps, Emmanuel Macron dit, on ne choisit pas une part de la France, a dit Emmanuel Macron vendredi, en s'opposant au déboulonnage des statuts. Pour vous, l'historien, vous êtes d'accord avec ça? On ne choisit pas simplement une part de la France, de l'histoire de France.
Et devenir français, c'est l'épouser tout entière. Mais oui, on épouse, d'abord, on apprend à connaître. Mais les statuts, ce qui est inadmissible, c'est de les déboulonner. Et il peut y avoir des débats sur savoir si elles peuvent rester.
Parce que l'on confond peut-être dans ce débat la mémoire et l'histoire. Et je m'adresse à un historien.
Et voilà. C'est-à-dire que l'histoire, il faut l'apprendre. Et moi, ce que je vois, et je le vois d'ailleurs par rapport à la crise que nous avons chez les jeunes, par rapport à la laïcité, on n'apprend pas suffisamment l'histoire de l'Empire, qui intéressait beaucoup Clémenceau, puisqu'il était contre, justement, la colonisation. On n'apprend pas toute cette histoire. L'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de leur abolition, de leur fin pour la colonisation. On n'apprend pas assez. Mais une fois qu'on a appris l'histoire, eh bien, on se fait sa propre idée. Et d'ailleurs, nous tous, enfin, je sais pas comment vous êtes, mais moi, on préfère certains personnages.
Oui, mais justement, dans le récit national, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une figure plus forte que celle de Clémenceau, dont on vient largement de parler? Est-ce qu'il n'y a pas De Gaulle? Et d'ailleurs, Emmanuel Macron semble glisser de Clémenceau à De Gaulle.
Mais madame, on peut préférer De Gaulle à Clémenceau, mais on peut aussi préférer Clémenceau à De Gaulle. Voilà. Clémenceau était un homme imparfait. C'était un homme qui vivait sa vie, qui faisait parfois des choses contradictoires, qui ne s'est pas construit une statue de son vivant. Bon, et donc il n'est pas d'un bloc. Bon, et lui-même et donc, mais il est d'un bloc sur les principes. Et moi j'aime bien ça.
Vous préférez Clémenceau à De Gaulle, on l'a compris.
J'ai une énorme admiration pour De Gaulle, mais je me sens plus proche de Clémenceau, voilà, du point de vue de l'attitude par rapport à la vie et à la vie politique.
Clémenceau, c'est la France, disait Churchill.
Ah, Churchill admirait Clémenceau. Mmh. Il écrit plusieurs portraits de Clémenceau, plusieurs. Il va le voir après la guerre, c'était un modèle pour lui.
Patrick Veil, en quelques secondes, c'est la fin de cet entretien. Pourquoi est-ce qu'on célèbre les 150 ans de la République alors qu'elle a commencé quand même dès 1792, la première, et puis celle de Louis-Napoléon Bonaparte, 1848 jusqu'à...
C'est pas moi qui l'ai décidé.
Pourquoi est-ce qu'on a oublié les deux premières? Parce qu'elles sont trop violentes?
Mais non, parce que ça tombe pendant ce quinquennat, et puis c'est le 150e anniversaire d'une, je dirais, c'est de la Troisième République, ou même pas d'ailleurs, puisque c'est 1875 qu'elle devient vraiment République. C'est un anniversaire parce qu'il y a une proclamation, et je trouve d'ailleurs que on ne parle pas assez de l'incroyable résistance, parce que 1870, c'est la première fois dans l'histoire des guerres,
c'est la défaite de Sedan.
Après Sedan, on dit pas c'est fini, on continue, et c'est Gambetta qui continue, et en proclamant la République. Donc ça, c'est magnifique de le célébrer. C'est une République combattante pour ses valeurs.
Patrick Veil, je renvoie donc à votre livre Georges Clémenceau, Lettres d'Amérique, quand le jeune Clémenceau, médecin, débarque aux États-Unis et deviendra journaliste durant près de 4 ans. C'est un livre épais et passionnant. Merci beaucoup Patrick Veil, et bonne journée. Il est 9h20.